Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 3 juillet 2021. Germain, salut.
Bonjour Antoine.
Bon, cette semaine, actualité limitée. On a appris que la BMW, BMW i3 est abandonnée, voiture électrique abandonnée, mais BMW s'en vient avec deux nouvelles voitures électriques. Mais
c'est ça, on arrive dans une nouvelle génération de véhicules électriques et c'était pas nécessairement pertinent de conserver la i3 et le volume de vente était pas substantiel non plus. Donc on passe à autre chose. Il n'y a pas eu de grand dévoilement, mais il y a eu une grande annonce quand même cette semaine.
Ouais.
Ottawa qui nous a annoncé que son objectif était d'interdire la vente de véhicules légers à essence dès 2035. Donc, on avait un plan de dans cette direction-là, avec comme objectif 2040. Et là, oups, on a resserré de 5 ans. Donc,
ce que ça veut dire, c'est que les manufacturiers vont augmenter le poids de leurs véhicules pour continuer à vendre des véhicules à gaz.
Oui, véhicules légers. Oui, c'est une possibilité.
J'aime ça, des annonces comme ça, parce qu'on est, c'est tellement difficile de se projeter dans le temps.
Et le gouvernement du Canada ne produit pas de véhicules, là, donc...
Est-ce que je cherche? Non.
C'est ça. Donc, c'est compliqué.
Non, et j'imagine que c'est une bonne chose, parce que appeler au service à la clientèle pour avoir une réclamation de garantie au gouvernement du Canada...
Oui, votre appel est important pour nous.
c'est ça.
Donc, pour la planète, on présume là, que c'est une bonne chose, puis je veux bien y mettre toute ma bonne volonté. Mais il va falloir...
Il sera où le marché automobile dans 10 ans? Personne ne peut le savoir.
C'est extrêmement difficile à prédire. Le marché évolue beaucoup, mais ça demeure un secteur industriel relativement conservateur à plusieurs niveaux. Donc, c'est extrêmement difficile de prévoir quoi que ce soit. Il va falloir mettre les bouchées doubles dans les infrastructures parce que, on le répète à chaque fois, un véhicule électrique, oui, c'est propre en plus au Québec, pas partout dans le monde, pas partout en Amérique du Nord, mais dans tous les milieux urbains, c'est loin d'être l'idéal. On prend toujours le même exemple. Vous restez dans un deuxième étage, vous stationnez votre véhicule dans la rue. Des fois, il est près de la porte, des fois, il est 50 mètres plus loin, puis des fois, en plein hiver, il est deux rues plus loin. Vous rechargez votre véhicule comment?
Non.
Tu vas aller à une borne,
tu me donnes un exemple. Non, mais moi, ça, c'est une chose. Mais c'est parce que...
Mais c'est le cas d'un paquet de consommateurs
citadins. Si pour nous, au Québec, c'est de plus en plus logique de passer à la voiture électrique, ça ne l'est pas pour quelqu'un qui habite au Wyoming, au Wisconsin, puis au Texas.
Non.
Tu sais, alors eux, tu peux pas leur dire dans 10 ans que tu vas t'acheter un véhicule électrique parce que dans leur tête, c'est quelque chose d'utopique. Quelque chose qui ne se peut pratiquement pas. Alors, tu sais, il y a ce changement de mentalité-là. Et le problème, c'est qu'un manufacturier automobile ne produit pas des véhicules pour le marché du Québec ou du Canada. Il produit des véhicules pour le marché américain et accessoirement pour le Canada.
Et même à l'intérieur du Canada, parce que là, c'est une annonce qui est valable là, d'un océan à l'autre. Le marché canadien est différent à l'intérieur. Là. En Alberta, on ne vend pas tout à fait les mêmes véhicules qu'au Québec.
Mais cela dit, tu sais, le fait que le Canada tout entier embarque là-dedans, ben, ça met un peu plus de pression que juste le marché du Québec.
Oui, absolument.
Parce qu'on peut rigoler du marché du Québec, mais quand ça commence à être le marché du Canada au complet, là, tu fais « Ouais, OK, ça commence à être sérieux. »
Donc, bref, on pourra suivre ça de près dans les prochains mois, les prochaines années.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
T'es allé essayer, toi, en primeur, le nouveau petit VUS de Volkswagen, le Taos. on est garanti d'un succès colossal avec ce véhicule-là, c'est certain.
C'est écrit en majuscule, en rose fluo dessus. Ça va se vendre comme des petits pains chauds. A priori, Volkswagen semble avoir bien fait ses devoirs. Grosso modo, pour les gens qui ont peut-être pas suivi de près là, la gamme Volkswagen, on a introduit un véhicule utilitaire sport plus petit que le Tiguan. Donc voilà, on complète la gamme de...
Un petit Tiguan. Qui vient remplacer la Golf aussi en même temps.
Et ça, c'est crève-cœur parce que, ça n'a absolument rien à voir, mais on est bien conscient que ça va se vendre énormément plus que la Golf à l'échelle nord-américaine. C'est pas vilain, hein, comme petit VUS.
Est-ce que c'est un meilleur produit que le Tiguan?
J'ai hâte de voir comment la mécanique 1.5 litres va évoluer parce que c'est un nouveau moteur, hein, bon, dérivé du 1.4 litres qu'on connaît déjà. Donc, c'est le bémol, c'est la question que je soulève.
Okay.
Mais ça reste un produit Volkswagen américanisé comme le sont là, les Tiguan, Atlas et compagnie. Okay. On ne retrouve absolument pas la passion et l'ADN Volkswagen.
Non, mais le fait qu'il soit plus petit, le fait qu'il soit de format... Parce que, faut le dire, là, ça se compare à un HR-V, à un Crosstrek, à CX-30. Bon.
Plus petit, mais ça demeure spacieux là, à l'intérieur. Okay. Le dégagement pour la tête est là. Le coffre, il est relativement grand pour la catégorie.
Dirais-tu que c'est plus spacieux que l'ancien Tiguan?
C'est pas configuré du tout de la même manière. C'est absolument pas la même approche. Et j'irais jusqu'à dire, oui, que c'est plus spacieux que l'ancien Tiguan. L'ancien Tiguan qui était un véhicule semi-de-luxe, semi-urbain, semi-sport.
En fait, c'est un VUS pour le marché européen qu'on a vendu chez
nous.
C'est
ça. On n'est pas là du tout. Là. Donc, si vous avez l'ancien Tiguan et que vous vous dites, ah, l'actuel est peut-être un peu trop gros, ben je suis pas nécessairement convaincu que le Taos, c'est un choix de remplacement là, idéal. Mais voilà, petite note aussi, le véhicule que j'ai conduit avait les quatre roues motrices, système 4Motion, ce qui veut dire qu'il était équipé de la boîte DSG, donc à double embrayage.
Ouais.
Au départ, on ressent une certaine lenteur, c'est pas nécessairement très agréable. Encore là, est-ce que le consommateur moyen va y voir un inconvénient? Je suis pas certain.
Okay.
Comme presque tous les VUS de ce format-là, on peut aussi l'avoir avec les deux roues motrices. Mais rendu là, achetez-vous une Jetta, c'est complètement sans intérêt, là.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir un format camion.
Oui, mais le coffre de la Jetta, il est caverneux.
C'est ça.
Si vous voulez pas les quatre roues motrices, achetez-vous une Jetta. Ça va vous coûter pas mal moins cher aussi. Et vous allez, pour ceux que ça intéresse, avoir un minimum de plaisir de conduire. Voilà.
Bon, moi, de mon côté, j'ai conduit la Bolt.
Oui, qui est passablement renouvelée pour 2022.
Retouche esthétique. Simplification de la gamme. Je n'ai pas conduit la version EUV, mais bien la Bolt EV, celle qu'on avait déjà. Parce qu'il faut le mentionner, là, il y a deux déclinaisons de la Bolt. Bolt EUV, qui est un pendant VUS, mais qui n'a rien à camion, là, on s'entend. Autonomie qui est à peu près la même. Ça n'a pas changé. On a reconfiguré la planche de bord, grossi l'écran central, amélioré la définition de cet écran-là, modifié la console centrale et surtout modifié les sièges, qui sont, je dirais pas confortable, mais plus confortable qu'avant. Alors ça, c'est un beau gain par rapport à l'ancienne génération.
Ça demeure des sièges de véhicules urbains, là.
Oui. Étroit.
Oui.
Étroit, mais avec un peu plus de support, avec un peu plus de coussinage au niveau de l'assise. Donc ça, c'est bien. Mais la grosse nouvelle, c'est qu'on a abaissé le prix de 6 800 $ par rapport au modèle 2021.
Et là, qu'est-ce qui se passe avec le modèle sortant? Il en reste en inventaire, je
Il en reste
dire.
En inventaire. On est liquide, 0 % de taux de financement ou à peu près, rabais à l'achat. Parce que là, évidemment, c'est un entre-deux. Mais que tu achètes un 2021 ou un 2022, je pense qu'actuellement, c'est la voiture électrique à se procurer, compte tenu de son prix, de sa fiabilité et de son autonomie.
Ouais. Alors ça, c'est... Sa disponibilité aussi.
Oui, absolument. Il y en a chez les concessionnaires. Ouais. Bon, là, on dit que le EUV, c'est peut-être un petit peu plus...
oui, complexe. Probablement parce qu'il y a un engouement au départ, mais ça
c'est
devrait...
C'est ça, deux, trois mois d'attente.
Oui, ça devrait se normaliser au fil des mois. Là.
Donc, Chevrolet ouvre les vannes en produit, est agressif. On profite des rabais gouvernementaux. Et au final, c'est une auto qui coûte 28 600 $ plus taxes.
C'est pas cher. Quand on réalise qu'une Civic de base, pas d'équipement, c'est 25 000 $
Bien, c'est pas compliqué. Moi, j'ai fait le calcul. C'est... Prenez une Corolla hatchback à boîte automatique avec un minimum d'équipement, c'est le même prix. Alors, tu sais, là, tu as une voiture 100% électrique, 400 km d'autonomie efficace. Tu sais qu'elle est fiable.
On enlève beaucoup d'arguments à ceux qui
disent, oui, mais l'électrique, c'est trop cher. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. En fait, elle est subventionnée. Faut pas l'oublier.
Oui, bien sûr.
En considérant les subventions du gouvernement, ça devient un achat très intéressant. Et je pense qu'on va rafler le marché. Écoute, au retour, Mathieu, on parle avec Mathieu Potier de Trois-Rivières-Acura. On va aborder un sujet qui est quand même intéressant, celui du pré-enregistrement de vente de véhicules qui peut causer problème.
Le guide de l'auto avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, il y a un phénomène chez les concessionnaires qui existe depuis belle lurette, en fait, dont le public n'est peut-être pas au fait, ne comprend peut-être pas ce que ça signifie le terme piner ou un véhicule ou pré-enregistrer un véhicule. Parce qu'on a un cas actuellement qui nous est illustré et qui nous laisse croire que c'est ce qui est arrivé, ben j'ai voulu parler avec un de mes amis de chez Trois-Rivières-Acura qui est propriétaire de la concession. On va y parler un petit peu plus tard, mais avant tout, on illustre le cas. On avait déjà fait mention de cette histoire-là. Alors, tu peux y aller si tu veux pour expliquer ce qui s'est passé.
Oui, donc une dame, Julie, possède un Audi Q5 2018 qu'elle a acheté de neuf et pour lequel elle avait laissé un dépôt de 500 $ afin de réserver son exemplaire le 27 avril 2017.
Ouais.
Le véhicule lui a par contre été livré que le 17 juillet 2017 puisqu'elle était en attente d'un règlement concernant sa Volkswagen Jetta TDI, évidemment là, en marge du Dieselgate. Bon,
à ce moment-là,
oui,
OK.
Oui, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit délai. Donc, elle s'est présenté ce printemps chez son concessionnaire pour une inspection de son Q5 et on lui a appris que la garantie de 4 ans est échue depuis le 21 avril 2021 puisqu'on lui aurait vendu un véhicule démonstrateur. Et là, ce qu'elle rajoute, c'est que lorsqu'on lui a livré le véhicule, l'odomètre affichait 10 km. Donc, s'il a été un démonstrateur, il n'a pas été démontré à bien du monde. On est d'accord avec ça. Il n'a pas fait beaucoup de tours du bloc. Là, son véhicule a 73 700 km.
Exact.
Et ben, elle, ce qu'elle dit, c'est que personne ne lui a mentionné que le véhicule avait été mis en service, finalement, avant la date de livraison. Et elle se retrouve pénalisée. Et là, une lourde facture à assumer de frais qui, normalement, auraient été couvert par la garantie, mais comme le véhicule a été mis en service plus tôt que la date de livraison, mais le véhicule n'est plus garanti, et ben elle se retrouve à devoir payer ça en théorie.
Ben en fait, et moi j'ai parlé à la dame en question, elle m'a envoyé une copie de son contrat de vente où ce n'est aucunement stipulé que c'est un véhicule démonstrateur, mais bien un véhicule neuf, que la date de livraison est bel et bien indiquée au 17 juillet 2017. Puis de toute façon, le véhicule avait 10 km. On s'entend qu'un Q5 2018 en juillet 2017, c'était des hot dogs. Le modèle venait de sortir.
Bien sûr.
Il n'y a pas de démo qui existe de ces véhicules-là 6 mois avant. Surtout pour une année modèle 2018 en juillet 2017. Ça n'avait aucun sens, cette histoire-là. Puis c'est le concessionnaire qui lui a mentionné ça. Alors, elle a fait une plainte à Audi Canada, qui est en cours de traitement présentement. Je n'ai pas eu de nouvelles sur ce qui est arrivé finalement. Mais la conclusion qu'on a tirée de ça, c'est qu'évidemment, le concessionnaire aurait pré-enregistré la vente pour se rendre service à lui-même, peut-être pour profiter d'un avantage dont la dame n'est peut-être pas au courant. Et l'impression que j'ai aussi, c'est que la majorité de ces véhicules-là sont loués. Hein.
Ouais.
Alors, ce qui arrive, c'est que le concessionnaire va généralement te rappeler au bout de trois ans et demi, viens me reporter ton véhicule, je te rassois dans un autre, pas de pénalité.
Et dans ce cas-là, la date de mise en service n'a pratiquement aucune valeur.
D'une part.
Ça change pratiquement rien.
D'une part, part, et d'autre part, pas besoin de te dire qu'actuellement, un Q5 2018 sur le marché d'occasion, on se les arrache.
Absolument.
C'est la folie furieuse. Tout le monde va avoir ça. Alors, tu sais, le concessionnaire, à l'époque, n'avait ou la personne qui a choisi de préenregistrer le véhicule pour X, Y raison, n'avait peut-être pas pensé à cette équation-là. Et là, ben, le concessionnaire doit faire face à la musique et il se retrouve dans l'eau chaude avec un contexte où la dame a 3 000 $ de pièces de réparation à payer de sa poche et 9 heures de temps. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ça?
Et là, corrige-moi si je me trompe, mais là, on a une dame qui visiblement suit de près tout ce qui est en lien avec sa voiture et ouais. Est assidu. Cela dit, je pense que c'est légitime d'imaginer qu'il y a bien des gens à la maison à qui ça a pu arriver par le passé et à qui ça pourrait arriver dans le futur et qui ne s'en rendraient pas forcément compte.
Bien, c'est sûr. Parce que n'importe qui aurait loué, peut-être, ne s'en serait pas rendu
Absolument.
Compte. Et cette dame-là a entretenu son véhicule assidûment, facture à la pluie. Mais on nommera pas le concessionnaire, mais je peux te dire que j'ai pas l'impression qu'elle va faire affaire encore longtemps là-bas. Alors, pour expliquer un peu ce phénomène-là, puis comprendre un peu pourquoi ou quel est l'avantage pour un concessionnaire de pré-enregistrer un véhicule, bien, je parle à un de mes amis de chez Trois-Rivières Acura qui, lui, comprend bien sûr très bien l'industrie. Salut, Mathieu.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour, messieurs. Ça va bien?
Très bien, merci. Absolument. Rebienvenue à l'émission. T'as déjà eu la chance, l'honneur d'être un de nos invités.
Il aura bientôt la carte chouchou, je pense.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu peux commencer en expliquant comment fonctionne le pinage de char ou le pré-enregistrement de véhicules et pourquoi les concessionnaires font ça?
Dans le fond, qu'est-ce qu'on entend par ça?
Bien, en fait, le véhicule, nous, on reçoit le véhicule, puis le véhicule apparaît disponible dans un système de localisation. Et ça permet au manufacturier de savoir qui a quel véhicule en inventaire, quels sont les véhicules qui sont disponibles pour la vente. Et ça permet aux concessionnaires, entre eux autres, de localiser ces véhicules-là de dire, bon, ben écoute, moi, je viens de vendre une unité que je n'ai pas en inventaire. Voici le groupe d'options, les couleurs, et le système va me dire, il y a tel ou tel concessionnaire qui a ce véhicule-là. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment un système de contrôle d'inventaire. Le véhicule doit être enregistré. Un coup qu'il est vendu, évidemment, on dit au manufacturier, ce véhicule-là, maintenant, circule sur les routes. Alors, la période de garantie doit commencer. Et évidemment, ben, tout dépend du manufacturier, période de garantie qui est à la fois en kilomètres et en durée de temps. Alors, le concessionnaire rapporte sa vente, comme le quoi le véhicule est vendu. Ou, dans l'autre cas, va rapporter que le véhicule a été mis en démonstration, c'est-à-dire que le véhicule circule sur les routes dans le but de le présenter à des clients ou dans le but d'accommoder des clients sous forme de véhicule de courtoisie. Alors, c'est là qu'à fond, on vient juste rapporter qu'il y a une utilisation qui est faite du véhicule et on dit le type d'utilisation.
Okay.
Alors, le mécanisme est bien simple. Je prends le numéro de série et j'avise mon manufacturier par un formulaire que le véhicule est vendu au détail ou il circule maintenant comme une dite démonstration. Et là, la garantie part ni plus ni moins. Alors,
okay.
La période de couverture.
Mais le fait de pré-enregistrer un véhicule comme ça pour le livrer 3 mois plus tard, alors que sur le contrat, c'est bel et bien indiqué que la garantie débute à la date de livraison, et ça, c'est coché sur le contrat. Quel est l'avantage pour un concessionnaire d'avoir une pratique comme celle-là? Parce qu'il y a différentes situations, là.
Oui. En fait, je vais corriger, c'est que la garantie commence à la date de mise en service.
Oui.
Donc, pour le consommateur, c'est peut-être un peu flou, mais la date de mise en service, c'est ce qui va régir, ni plus ni moins, quelle date a démarré la garantie et quelle date elle va se terminer.
Oui, mais alors, je me permets de te dire, Mathieu, que sur le contrat de vente, qui est un contrat de vente à tempérament légal pour le Québec, donc pour l'ensemble des concessionnaires automobiles, il est stipulé que la date de mise en service ou le début de la garantie se fait à la date de livraison.
Ouais. Là, le bémol là-dedans, c'est que ça, c'est le contrat, c'est la garantie légale. La garantie légale est celle qui prédomine par-dessus la garantie du manufacturier. Puis là, il y a trois catégories. Enfin, il y en a quatre même, la garantie légale A, B, C et D. Alors, ça, c'est ce qui prévaut, dans le fond, la garantie légale.
Okay.
Mais la garantie du manufacturier est celle qui est honorée. Parce que la garantie légale, c'est le concessionnaire qui l'assume, et la garantie du manufacturier, bien évidemment, c'est le manufacturier qui l'assume.
Okay.
Les avantages maintenant, bien, là, les avantages sont multiples. En fait, c'est que, c'est nécessaire pour faire en sorte que si mon client se présente ici par après, puis le véhicule, je veux me faire payer pour les travaux, bien, le véhicule doit avoir été enregistré. Maintenant, à la fin de chaque mois, je livre mes véhicules, je dois rapporter mes ventes au manufacturier. J'ai des objectifs à atteindre, donc je dois les rapporter. Alors, c'est nécessaire pour moi de faire mes enregistrements, de les maximiser.
Donne-moi un exemple d'objectif de vente, là, qui pour que les gens comprennent bien un peu là, dans quelle situation vous baignez par rapport à votre manufacturier. Tu peux prendre Acura comme exemple, là. On n'est pas obligé de citer Audi, là, tu sais.
Ouais, non, c'est ça exactement. C'est que il y a des variantes à ça, mais les principes sont pas mal toutes les mêmes.
Ben oui.
C'est-à-dire que en tant que concessionnaire, on m'octroie une franchise en s'attendant de moi que j'ai une couverture de marché qui est égale à ce que le manufacturier fait. C'est-à-dire quoi? Mes parts de marché. Donc, on dit, ben, dans le cas d'Acura, c'est Acura a 12% du marché de véhicules de luxe. Donc, dans les véhicules qu'il compétitionne, il y a 12% de parts de marché. On s'attend à ce que je respecte ces parts de marché-là. Donc, je performe à la hauteur du manufacturier ou que je surperforme dans mon territoire. Alors, à chaque année, selon les objectifs de vente du manufacturier, selon leurs prévisions, eux vont m'envoyer mon objectif. Ils vont me dire, bon, ben, Mathieu, cette année, on s'attend à ce que Acura Trois-Rivières vende X nombre d'unités.
Okay.
Et là, ils vont me demander de commenter. Alors, quand on commente, là, c'est je peux pas faire augmenter ça de 100 unités ou de le faire réduire de 100 unités, c'est de l'ajustement. Alors, je vais regarder, on me dit, ben, tu vas vendre tant de ILX, tant de RDX, et là, je vais ajuster ça, parce que des fois, c'est tout ça est calculé par une machine, un système, puis approuvé par des gens qui ne sont pas nécessairement en lien avec la réalité de Trois-Rivières.
Oui, oui.
Tous les concessionnaires. Alors là, je vais arriver, il m'a dit, écoute, je suis à l'aise avec le chiffre, mais voici la répartition. Puis là, la répartition, ben, je pense que je vais vendre un peu plus de TLX que de ILX, pourrais-tu m'ajuster ça? Et là,
mon
représentant. Ben ouais, mais le représentant, lui aussi, il doit surtout.
Il doit vendre son point, lui, il doit répartir là, le nombre de ILX pour le pays. Là. Donc lui, il essaie de entre guillemets en pousser aussi, là.
Ben oui, on s'entend, là. Je veux dire, si le manufacturier, dans notre cas, c'est Honda Manufacturing qui a décidé qu'il y avait une usine cette année, ils vont construire 30 000 ILX, puis 120 000 RDX. Ces véhicules-là doivent se vendre et ils vont répartir ça selon les marchés dans lesquels ils vont cibler.
Ben ouais.
Dans notre cas, c'est le Mexique, les États-Unis puis le Canada. Après ça, ben, ils s'ajustent. Fait qu'évidemment, j'ai une légère marge de manœuvre. Mais après ça, je dois les rencontrer, ces objectifs-là. Alors, puis c'est annuel. Alors, si je suis en liste pour les rencontrer, un mois, je manque l'objectif de 2 unités, ben, écoute, pas vraiment grave. Puis le mois d'après, ben, je suis en avance de 5 unités. Ben, on s'ajuste avec ça. Mais ce qui dicte c'est le rythme de vente. Le rythme de vente, là, c'est pas tous les manufacturiers qui fonctionnent de la même manière, mais on sait que l'inventaire, c'est crucial. Alors, plus j'enregistre de véhicules, plus mon rythme de vente est augmenté aux yeux du manufacturier, plus j'ai de chances d'avoir des allocations pour des futures unités.
Donc, des véhicules convoités, puis là, on peut prendre l'exemple de la Type S, par exemple, qui débarque en ce moment. Si tu as connu des bonnes années par le passé, ben on va peut-être privilégier ta candidature plutôt que celle d'un concessionnaire qui a un rythme un peu plus lent. C'est bien ça?
Ben oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la location initiale. Donc, le véhicule vient d'arriver, on t'en promet 3. Bon, je vais recevoir mes 3. Mais par contre, si j'en reçois 3 et immédiatement elles sont enregistrées, on dit tabarouette, lui, là, il a performé, j'ai envoyé, il les a livrées tout de suite, il est rendu à 0, il y a probablement encore de la demande pour ce véhicule-là. Alors, dans la prochaine allocation, je vais m'assurer que ce marché-là est mieux couvert. Donc, l'allocation initiale, c'est qu'est-ce qu'on donne pour promouvoir. Après ça, c'est les allocations par après, c'est le rythme de vente. Donc, j'en ai envoyé trois, tu les as vendus les trois en l'intérieur de 10 jours. Ça veut dire que 3 unités, ça représente 10 jours d'inventaire. Notre target à nous, c'est 45 jours d'inventaire. Prochaine allocation, je vais essayer de t'en donner 10.
OK.
C'est comme ça fonctionne. Donc, il calcule toujours ça, que ce soit le terme en anglais, là, c'est le day supply. Il s'assure d'avoir toujours un nombre de jours en inventaire qui est confortable. Donc, 45, le target, c'est vraiment ça, 45 jours. Ce qui veut dire que si je vends 10 RDX par mois, je devrais avoir 15 RDX d'en cours pour donner un choix suffisant et un délai raisonnable de livraison à mes clients.
OK.
Le facturier s'assure de ça parce que s'il y a trop d'unités, ben, les conteneurs vont dire, on a besoin de programmes, on a trop de véhicules. Alors, pour baisser ce jour d'inventaire-là. Parce qu'évidemment, d'un autre côté, si jamais il y a trop d'unités, les conteneurs vont en commander moins.
Ben oui.
Et l'usine, elle en produit pareil. Alors, qui va supporter ces unités-là? Ben, c'est le manufacturier qui a un espace limité. Alors, les programmes sont là pour s'assurer que le niveau d'inventaire puis les véhicules qui sont produits s'acheminent des concessionnaires et ultimement dans le cours des clients.
Bon, ben parfait. Mais moi, je te fais une mise en contexte. Toi, Mathieu Potier, tu as, par exemple, comme objectif de vendre 15 RDX ce mois-ci. Tu as l'inventaire dans la cour pour le faire. Finalement, ben écoute, t'en vends 8. Et puis, tu as tes 15 véhicules, mais tu voudrais les afficher comme vendus parce que tu voudrais recevoir ta ristourne de fin de mois, tu voudrais avoir ton allocation de véhicules un peu plus tard dans l'année, tu voudrais profiter de tous les bénéfices que le manufacturier va pouvoir t'offrir. Alors, tu les affiches comme vendus, ces véhicules-là. Et le mois prochain, bien, tu reçois encore tes 15 RDX, puis tu en vends encore 8. Bien là, tabarouette, t'es pris avec 14 véhicules que t'as pas vendus, puis il faut que tu supportes parce qu'ils sont pas payés. Puis le mois d'après, c'est encore la même chose. J'imagine qu'il y a quelqu'un quelque part qui doit se rendre compte à un moment donné de la situation. Puis toi, il faut que tu supportes cet inventaire-là. Quel est l'avantage d'un concessionnaire d'aller pré-enregistrer des véhicules si ce n'est que de profiter d'une ristourne puis d'un inventaire généreux?
Bien là, évidemment, là, Ça dépend de chaque manufacturier. Là,
oui, en fait, ça, je comprends.
Ça s'applique vraiment pas dans notre monde à nous. Le monde Honda Acura, il n'y a pas de ristourne de fin de mois, quoi que ce soit. Mais
il y en a ailleurs, si on s'entend, là. Ouais.
Oui, tout à fait. Ouais. Et ça crée des problèmes, puis on le voit là, en passant, tu le vois par l'insatisfaction générale. Un manufacturier qui offre ce genre d'incitatif-là, il y a la satisfaction des clients, mais nous autres, on a un indice de satisfaction des concessionnaires envers le manufacturier qui est géré par la CADA. Là, qui est,
ouais.
Je te laisserai expliquer ce que c'est, mais ce qui est une association de concessionnaires automobiles canadiennes. Et on le voit, ça devient très dur à gérer parce que le manufacturier met de la pression. Ben, écoute, si tu atteins ton objectif, ben je te redonne tant de dollars par unité. Ça existe.
Ouais.
C'est en perte de vitesse, mais ça existe. Et c'est ce qui pousse certains concessionnaires à le faire. Donc, ils vont être un petit peu optimistes. Ils vont dire, ben, écoute, je suis aussi bien de pré-enregistrer 1, 2 ou 3 unités parce que je vais recevoir rétroactivement sur toutes mes unités du mois X centaines ou milliers de dollars.
Je comprends, mais c'est parce que tu te peintures dans le coin en te mettant une pression supplémentaire pour tes ventes du mois futur.
Ben oui, définitivement. Puis là, évidemment, tu sais, je peux pas parler pour l'ensemble des concessionnaires. Là, je parle.
Non, tu sais, on s'entend là. Puis tu sais, je me permets
d'affaires d'une façon différente. Là.
Ouais, je me permets de mentionner, tu sais, par exemple, qu'il y a des concessionnaires et il y a des constructeurs chez qui c'est une pratique hyper connue. Et t'as des concessionnaires qui vont se partir des compagnies de location maison en parallèle pour mettre des véhicules sur la route pour les renvoyer aux États-Unis l'année d'après. Tu sais, il y a des contextes qui varient d'un manufacturier à l'autre puis des possibilités qui varient. Mais de pré-enregistrer des véhicules d'avance à l'avantage du concessionnaire et dans ce cas-ci, clairement, au désavantage du client, bien, c'est une pratique que je considère, je veux pas dire frauduleuse, mais dangereuse, clairement. Alors, qu'est-ce que le concessionnaire doit faire dans ce cas-là, tu sais?
Je suis obligé de mettre un bémol.
Okay.
Parce que là, à ça vient d'autres situations. Dans cette situation-là, présentement, on n'a pas tous les éléments. Aujourd'hui, là, est un très bon exemple. Aujourd'hui, c'est la fin de mois, c'est ma dernière journée pour enregistrer des véhicules.
Ouais.
Donc, on est le 30 juin. C'est une grosse journée pour un concessionnaire automobile.
Tu viens d'annoncer à tout le monde qu'on préenregistre notre émission, mais c'est correct.
Ah, bon, ben écoute,
parce qu'on est diffusé,
malheureusement,
le samedi, mais ça va, Mathieu, il n'y a pas de problème.
Bon, ben pas de problème. Écoute, c'est les limitations, malheureusement, de la radio, puis ouais. Ça va avec le briefing que j'ai eu. Alors, shame on you. Mais cela dit, en fait, puis de façon ou d'une autre, ce qui est important, c'est d'informer le public.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, je dois déclarer des ventes. Évidemment, j'ai des clients qui ont acheté le véhicule avec un programme et
ouais.
Je ne connais pas le programme que je vais avoir vendredi matin. Demain, on est fermé,
ouais.
C'est férié. Je ne connais pas le programme. Et je peux me fier à mon flair, qui n'est pas toujours juste, ou je me dis, ben voici.
Ça, c'est vrai, vous l'apprenez vraiment à la dernière minute. Là. Tous les manufacturiers, c'est comme ça, là. Vous
ben
connaissez
oui,
pas le programme 10-12 jours d'avance, là?
Absolument pas, ouais. Absolument pas, parce que ça change énormément. Et aujourd'hui, on a demain qui est tellement saisonnier, aujourd'hui, on va recevoir là les chiffres de vente, mais ça se peut qu'on ait eu une semaine absolument extraordinaire ailleurs dans la province, puis qui vient de changer la donne en termes de jours d'inventaire,
ouais.
Puis qui va influencer ça. Donc, toutes les... En fait, on dit, tu sais, rien ne va plus, mais nous autres, là, c'est à soir, à 9 heures, qu'on va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le mois, puis quels sont les prochains programmes. Quand je dis à 9 heures à soir, là,
ouais.
En fait, c'est le manufacturier va dire, bon, ben voici ce qu'on avait prévu, on le met en branle, on le publie, les agences de marketing vont recevoir les incitatifs.
Ouais.
Il y a des choses qui sont prévues, mais il n'y a rien qui est coulé dans le béton, tout peut s'ajuster encore.
Okay.
Fait que là, aujourd'hui, et là, je vous parle chez nous, ben, j'ai des véhicules que je vais livrer vendredi. Et le client le sait. Expliquer, voici, je vous l'ai vendredi, il se peut qu'il y ait un programme qui est différent vendredi matin, mais je me dois de geler notre transaction. Alors, je l'explique. Maintenant...
Donc, est-ce que la vente est préenregistrée aujourd'hui, le mercredi, ou on arrive vendredi, puis on sait pas quel est le programme dans le Duotang, puis on joue à pelle ou face?
Ben absolument. En fait, puis là, je vous explique là, comment ça se passe.
C'est une manière d'illustrer.
Comment ça se passe. Ben oui, là, mais je vous explique, tu sais, comment ça se passe chez Honda et Acura, mais pour les autres marques, je peux pas nécessairement le préciser. Mais voici ce qu'il y en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais livrer un véhicule à M. Joubert vendredi, mais je me dois d'enregistrer sa transaction pour solidifier le programme en cours.
Ouais.
Parce que je ne sais pas ce qui arrive vendredi. Donc, s'il advenait que vendredi matin, il sorte un nouveau rabais, et ce rabais-là est 1 000 $ plus avantageux pour M. Joubert, ce que je suis capable de faire, et ce qu'on fait évidemment parce que c'est un souci de transparence, je vais appeler M. Joubert, je vais dire, M. Joubert, avez-vous vu les programmes ce matin? Non, je ne savais pas. Je suis content de vous annoncer que vous allez sauver 1 000 $. Ah, ben parfait, c'est beau. Le véhicule est enregistré en date de mercredi. On se comprend, la garantie
ouais.
A parti mercredi, mais je vais faire ce qu'on appelle dans le système une procédure d'exception et je vais démontrer à mon manufacturier que j'ai remis à M. Joubert la promotion de juillet et il va tout signer ses documents, j'envoie ça à Acura et Acura va me dire, ben écoute, il n'y a pas de problème, voici.
Mais tout ça, c'est parce qu'on est dans un délai raisonnable.
Non, mais c'est ça.
Et à l'inverse,
ben exactement.
Et à l'inverse, si la promotion du mois de juin était plus intéressante que celle du mois de juillet, ben le 2 juillet, un véhicule que tu livrerais le 2 juillet pour lequel on a un préenregistrement du 30 juin, on garde en vigueur la promotion de
c'est ça,
de juin.
On appelle ça du
ouais,
commerce.
Oui.
Je veux dire, c'est une pratique courante, puis c'est une pratique qui est très, très, très à l'honneur du concessionnaire.
C'est très raisonnable.
Ça fait juste partie de la façon de vendre un véhicule. Mais là, on parle de 3 mois d'écart, là. C'est pas la même chose.
Ben alors, ben là, évidemment, parce que là, je vais tout vous expliquer les possibilités qui fait que cette situation est arrivée. T'sais. Mais qu'en est-il de M. Joubert qui prend possession de son véhicule vendredi matin, dont j'ai enregistré la vente le mercredi, toujours dans la même situation.
Ouais.
Mais qui finalement, lui, il était assis sur la clôture. Les sports utilitaires, c'est extrêmement compétitif. Puis finalement, vendredi matin, un manufacturier compétitif a sorti un programme plus généreux. Et il me dit, Mathieu, écoute, il y a une méga promotion dans un autre manufacturier. Finalement, je ne prendrai pas mon véhicule. Et ça arrive.
Oui, oui, oui.
Moi, j'ai enregistré un véhicule au nom de M. Joubert. Et M. Joubert ne prendra jamais possession de ce véhicule-là. Le véhicule est enregistré. La garantie est partie. Et c'est certain que mon manufacturier ne me dira pas, ben, il m'a donné une extension de garantie.
Non, arrange-toi de tes troubles, tu l'as vendu. Oui, oui.
Okay. Exactement. Là, ce qu'il va me dire, il va me dire, Mathieu, ce que je peux faire pour t'aider, c'est que je vais te protéger les programmes. Si jamais tu le livres au mois d'août, au mois de septembre, ça a pris du temps avant que tu le vendes, je vais te donner les programmes de septembre.
Je comprends, mais là, tu me parles d'un contexte en toute transparence, puis un cas relativement d'exception. Là.
Mais je vais y venir. Là. Je vais y venir à ça.
Ouais.
Mais ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'est des choses qui arrivent.
Okay.
Maintenant, qu'en est-il d'un autre manufacturier qui, lui, ils ont des incitatifs pour faire découvrir le véhicule auprès de la clientèle? Alors, je suis concessionnaire Acura, je n'ai pas ce genre d'incitatif-là, mais j'ai des amis dans l'industrie qui, eux, ont des programmes démo qu'on appelle.
Ouais.
Donc, on doit enregistrer le véhicule. Il est présumé auprès du manufacturier comme une unité de démonstration.
Okay.
Et lorsqu'il est sorti de route, donc lorsqu'il est enregistré au détail, ben là, on a une allocation. Parce que le manufacturier dit, évidemment, si le véhicule a roulé 500, 1000, 1500 kilomètres, le véhicule, tu as probablement dû le vendre moins cher à un consommateur.
Ouais.
Donc, voici, on va participer avec toi dans l'amortissement de cette dépense-là. Vous comprenez?
Ouais.
Donc, moi, je vends le véhicule, il a été démonstrateur, alors le manufacturier donne une allocation. Alors, il y a certains manufacturiers qui vont encourager ça, parce qu'on s'entend que mettre, puis là, j'enlève rien, un Civic, mais mettre un Civic en démonstration, ça coûte beaucoup moins cher à un concessionnaire que de mettre un véhicule à 50, 60 000 $ en démonstration.
Ouais.
Alors, le consommateur va s'attendre à une considération beaucoup plus grande si son véhicule de 60 000 $ a déjà du kilomètre. Donc, le manufacturier participe à la dépense,
okay.
Donc au rabais qu'on doit donner. Alors, ça en est une situation. Par contre, le véhicule dans lequel vous me parlez, ben là, il y a 10 kilomètres. Alors, est-ce qu'il a été mis en démonstration puis il n'a jamais été passé?
Mais, la réponse, c'est non, parce que sur le contrat de vente à tempérament, il est indiqué que le véhicule est vendu comme un neuf et non pas comme un démonstrateur.
Ben, on se comprend, mais là, l'autre histoire, il faut se dire, c'est que ça vend à tempérament et auprès du manufacturier, c'est deux choses. Alors, le véhicule était effectivement encore neuf, il y avait 10 kilomètres,
ouais.
Mais il a été enregistré auprès du manufacturier comme un démonstrateur pendant une période de 3 mois.
Par
le concessionnaire. Ça, je veux donner les subtilités. Puis moi, je ne suis pas là pour mettre la faute sur personne, mais je vous donne les possibilités.
Ouais.
Alors, évidemment, auprès de la documentation que la dame a dû signer, parce que c'est une dame que vous m'avez parlé,
ouais.
Qui était propriétaire du véhicule, elle a un document qui stipule l'attestation.
Je présume que
garantie.
C'est une dame parce que son nom, c'est Julie. Marc, des possibilités aujourd'hui.
Oui, voilà. C'est...
Bon, alors...
on voit le visage de Mathieu.
On s'attendra pas les détails, mais cela dit, donc cette personne-là a reçu un document qui explique le départ de la garantie qui n'est pas à voir avec le contrat de vente. Ça s'est découvert rapidement. Je peux pas.
Non, c'est ça. Toutes ces réponses-là,
mais
c'est pas là.
C'est ça. La conversation aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pousse un concessionnaire à préenregistrer une unité? Ben, c'est celle-là. C'est préenregistrée. C'est une vente qui a été cancellée, mais dont les programmes sont encore applicables. Donc, c'est encore un véhicule neuf, mais il a été préenregistré. Après ça, ben, c'était une unité démonstrateur qui était sur un programme du manufacturier. C'est une possibilité. Ce sont tous des choses qui font en sorte que la garantie a été démarrée. Maintenant, un incitatif pour atteindre l'objectif. J'ai vendu 22 unités, j'avais besoin de 23 pour m'en rendre à mon objectif. J'en prends un, je le préenregistre, je reçois ce qu'on appelle le kickback ou la, la ristourne par en arrière, qu'on voit chez certains manufacturiers, ça s'est vu ça aussi.
Et ça peut, alors, ça peut s'élever à combien une ristourne comme ça?
Et c'est comme si je vous posais la question, ça coûte combien un char rouge?
Oui, c'est ça. Ça peut être, ça peut être 150$ comme ça peut être 5000$. Ça, t'sais, c'est...
Ouais, ben, en fait, le 5000, c'est extrême, là, je vous dirais. Là. Mais ça peut être, c'est ça, ça peut être des peanuts ou ça peut être passablement d'argent. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment qui est derrière nous, qui explique, mettons, un petit peu la situation. Là, ça mentionne un manufacturier. Mais rappelez-vous, dans le temps, la Dodge Caravan qui était affichée à 18 995 $. T'sais, on a connu ça. C'est un modèle qui n'est plus sur nos routes aujourd'hui, mais on a connu ça.
Ah, il est encore sur nos routes, il y en a tellement.
Il est juste un peu déglingué, mais il est encore là.
Ben, peu importe, mais en fait, il n'est plus dans les concessionnaires automobiles. À l'époque, ce véhicule-là, si le concessionnaire le vendait à ce prix-là, il perdait de l'argent. Ouais. Alors, il perdait littéralement quelques centaines de dollars sur le véhicule. Par contre, s'il atteignait ses chiffres de vente, il recevait une ristourne qui lui permettait de combler le déficit et de faire aussi quelques centaines de dollars sur l'unité.
Donc, on joue avec les chiffres, là, ni plus ni moins.
Ben, on joue quelques centaines de dollars, évidemment, à chaque véhicule qu'on vend. Faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens qu'un concessionnaire va faire quelques centaines de dollars avec un véhicule, les gens ne croient pas. Parce que le profit dans un véhicule, bon, chez Acura, évidemment, les véhicules de luxe, il y a plus de profit. Oui. Mais si tu prends un Nissan Versa demain matin, ben, ce qui reste dans l'auto pour un concessionnaire qui l'a vendu au prix de détail, c'est 500$.
Oui.
Après ça, tu pourras vendre des produits FNI, tu pourras vendre d'autres choses pour
mais
aller
le véhicule comme
ton
tel.
Profit. Mais le véhicule, il n'y a pas de marge de manœuvre dedans. T'sais, une Honda Civic, là, les marges de profit, c'est pas 2000$.
Non.
Mais ça, les gens aujourd'hui ne le croient pas parce qu'à une certaine époque, c'était ça. T'sais, moi, j'ai la
feuille. Oui, les marges étaient plus grandes.
Écoute, je te donne l'exemple de ma Volkswagen Corrado 1991 qui a été vendue à l'époque pour 23 000 $. Le PDSF était à 26 395 $ et le coûtant du concessionnaire était 20 800 quelque chose. Il y avait presque 6 000 $ de profit dans une voiture. Il y avait presque 20 % de profit dans une voiture pour le concessionnaire à l'époque. Aujourd'hui, on n'est pas là, là. Tu sais, fait que c'est des choses qui ont changé. Mais là, tu me parles, Mathieu, on revient à nos moutons, tu me parles, Mathieu, d'un contexte où là, tu avais besoin d'une unité, deux unités, trois unités. Il y a des concessionnaires qui font des pratiques extrêmes. Là. Tu vas avoir des cas où les concessionnaires vont pré-enregistrer 10, 15, 20, 30 véhicules dans un mois. Là. C'est pas des farces, ça arrive.
Alors, ben oui, ça arrive. Mais dites-vous une chose, pour un concessionnaire qui vend 300 unités par année, en préenregistrer une trentaine dans l'année, c'est 10 % de ses ventes.
Ouais.
Mais un concessionnaire qui en vend
3 000, ouais,
c'est ça. Alors, là, c'est à plus haut volume. Maintenant, ben, ce concessionnaire-là s'expose là, s'il y a un changement de direction, c'est-à-dire que ce modèle-là n'est plus à la mode, n'est plus la saveur des consommateurs. Il se ramasse avec une cour qui
le compétiteur a un nouveau rabais qui fait que le véhicule est plus compétitif,
ben oui.
N'importe quoi. Là,
ben
bon.
Oui.
C'est ça.
Ben, ça c'est, en fait, puis on le voit, il suffit de se présenter dans un concessionnaire présentement, puis est-ce qu'il reste beaucoup de 2020? ça se peut. T'sais, ça se peut qu'il en reste beaucoup, puis fort probablement que les garanties sont parties. Alors, donc, ça, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Puis, le concessionnaire les a préenregistrés pour une raison, c'est qu'il n'y a plus aucun support de la part du manufacturier. Qu'est-ce qu'on appelle les rabais finaux ont été payés. Alors, parce qu'en fin d'année, le manufacturier va dire, écoute, moi, je ne fais plus de location pour ce véicule-là.
Bon, oui, parce que les résiduels sont rendus trop bas, puis bon.
En fait, s'il ne fait plus d'occasion, mais il n'y a plus de résiduels tout court.
C'est ça.
Alors, ce véhicule-là n'est plus éligible à un financement subventionné. Donc, du 1,9 % ou du 0,9 %. Donc, ils font ce qu'on appelle le paiement final. Le paiement final étant, voici, je te donne X centaines ou milliers de dollars pour le véhicule, puis maintenant, ben, tu t'arranges avec, tu l'as commandé, il est à toi, tu t'arranges avec. Donc, le concessionnaire, ce qu'il peut faire, c'est lui, il enregistre les véhicules.
Ouais.
il utilise la ristourne pour baisser son coûtant en inventaire et le véhicule est vendu comme un véhicule, évidemment un véhicule neuf, mais il est considéré comme un véhicule d'occasion auprès du manufacturier. Ouais. Quand il va être enregistré, ben, il est déjà enregistré au détail. S'il y a un programme de certification, ben, c'est vendu comme un véhicule certifié d'occasion, ni plus ni moins.
Puis, pour terminer, Mathieu, là, on a un cas d'une dame qui devrait techniquement avoir une garantie sur son véhicule qui ne l'a plus et le concessionnaire refuse d'honorer cette garantie-là parce que lui, l'a débuté 3 mois avant. T'es un concessionnaire.
Oui.
T'avales la pilule puis tu payes?
Ben,
je veux dire, tu veux pas perdre...
Là, je réponds. Moi, pour ma part, aujourd'hui, avec les faits que vous mentionnez là, je pense que cette dame-là va faire 1-2 téléphones.
Puis ça va se régler.
Et elle va tenir... Ben oui.
Elle va appeler au bureau,
ça peut être
épeurant.
Et
voilà.
Ben écoutez, ça peut être épeurant. Là.
Je comprends ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi.
Je comprends que c'est quelqu'un qui a été extrêmement maladroit dans comment il a géré la situation avec la dame.
C'est ça.
Parce que peu importe la situation... 3 mois après la fin d'une garantie, si le consommateur a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il a gardé une relation avec le concessionnaire, il a fait ses entretiens, il n'y a pas de négligence apparente, ben, c'est assez facile, normalement, là je parle évidemment du côté d'Acura, mais je suis capable d'appeler mon représentant, je lui dis, écoutez, M. Joubert, on le connaît, c'est le client de la maison, il fait ses entretiens régulièrement, il y a eu une bad luck, écoute, on a une facture aujourd'hui.
T'appelles ça du goodwill, là. Oui, oui.
Exactement, c'est le bon terme. En français, c'est de la bienveillance. Écoute, on peut-tu faire quelque chose? Et c'est vraiment rare qu'on va se faire dire non si le consommateur a fait, puis là, je passe le message, mais c'est pas parce que je vais passer le message, mais s'il a fait les entretiens qui étaient prescrits.
Oui, oui.
Alors, parce que faut s'entendre. Il faut s'entendre sur une chose. Le manufacturier accepte de payer pour le véhicule pendant 4 ans. C'est un gage de confiance. Écoute, je te promets qu'il ne brisera pas, puis si jamais il brise, je vais payer pour. Mais voici ce que tu as à faire si tu veux qu'il dure longtemps ton véhicule. Ça, c'est le message, là. Le papier de garantie, là, qui a peut-être 3-4 pages puis des milliers de mots, là, parce que c'est écrit très petit, là.
En gros,
c'est ça que ça veut. Ben, c'est ça que ça veut dire, tu sais. Puis, je suis obligé de dire que, est-ce qu'on entend ça souvent? Ben, j'ai pas besoin de changer l'huile dans mon circuit, l'huile à frein dans mon véhicule. J'ai jamais fait ça auparavant. Nettoyer les freins une fois par année, ben, voyons donc, j'ai jamais fait ça auparavant.
Non. Ben là, tu tombes dans un... Oui, on parle d'un minimum d'entretien, puis malheureusement...
C'est pas toujours fait, là.
Souvent, les gens louent et pensent qu'ils n'ont rien à faire pendant 4 ans, puis redonnent les clés. Ouais, c'est ça.
Ben, exactement. Puis aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus... Tu sais, on s'entend, il y a de plus en plus de systèmes complexes dans le véhicule. Puis ça nécessite de l'entretien. Ça nécessite... Donc, mon point est que si tout ça a été fait par le consommateur, la preuve de ça, le manufacturier va faire ce qu'on appelle un geste de bienveillance.
Puis il va dire, ta conclusion, c'est que... Ta conclusion,
moi,
c'est qu'ici...
Moi, je m'inquiète peu pour cette dame-là.
Non, mais c'est ça. Mais sauf que elle, ce qui est dommage, c'est qu'il faut qu'elle téléphone ailleurs que chez le concessionnaire pour avoir raison ou gain de cause, parce que le concessionnaire, lui, n'a pas fait ses devoirs, tout simplement.
Bien, là, je vais vous répondre. Il y a plusieurs personnes... C'est ça,
tu peux répondre
qui ont comme manqué la courbe. c'est ça. Ils ont manqué la curve. C'est il y a 3 mois, là. Avant d'appeler le client, puis il disait, écoute, t'en as pour 3000 piastres de pièces, puis 9 heures de temps, je vais appeler mon représentant, il m'a dit, écoute, celle-là, là, je peux pas appeler M. Joubert puis expliquer ça, là, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. C'est une conversation qu'il n'aurait même pas dû avoir, puis on rappelle la cliente, puis il dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Puis là, je fais ça avec le plus grand respect envers mes collègues concessionnaires. Je pense que ça aurait dû être fait. et on aurait évité un stress pour la cliente. Là,
et ce que tu nous dis, c'est que chez Trois-Rivières Acura, c'est quelque chose qui n'arrive jamais.
Ouais, c'est ça, ça ne sera pas arrivé.
Ah, vous savez quoi? Même le Christ a mis les genoux trois fois à terre. Donc, je suis loin de dire que qu'on est libre de toute erreur.
Ah, mais tout le monde en échappe.
Ben, exactement. Puis, je veux dire, malheureusement, ce n'est pas des machines, c'est des humains. Puis le stress, puis le cible et ça, des fois, on est maladroit et ça arrive partout. Mais dans une situation comme celle-là, est-ce que ça peut se régler facilement? Définitivement.
Donc, on va juste rappeler aux gens en terminant, merci Mathieu d'avoir été là, on va rappeler aux gens en terminant que c'est peut-être important de vous assurer de la date de mise en service du véhicule que vous achetez.
De lire les grandes lignes du contrat.
C'est
là,
un point à considérer quand vous achetez un véhicule. Vous assurez que vous aurez une garantie de 4 ans sur un véhicule qui est couvert pendant 4 ans et non pas de 3 ans et demi parce que le concessionnaire a fait un tour de passe-passe ou a joué à son avantage avec les chiffres. Puis souvent, dans les cas, comme on disait, dans les cas de location, ça peut ne pas paraître.
Ouais. Mais là, dans la vente, ben ça, voilà. c'est une différence.
Ben merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu, d'avoir été là. Et puis, on te souhaite beaucoup de succès avec tes produits type S qui débarquent dans les prochains mois. La TLX qui est là, puis le MDX qui s'en vient éventuellement, semble-t-il.
Ben écoute, merci beaucoup à vous deux. Toujours un plaisir de vous jaser. Et bonne fin d'émission.
Puis bonne fin de mois.
Merci.
Salut. Ouais. Merci. Au revoir.
Cube Radio.